chers amis, bonjour.
Le Centre chrétien évangélique d'Andrézieux a le plaisir de vous faire écouter des conférences publiques de différents pasteurs.
Ces messages ont été en bénédiction pour un grand nombre d'auditeurs et nous espérons qu'il en soit de même pour vous.
Vous pouvez venir écouter ces prédications en direct tous les dimanches à 10h et 16h30, ainsi que les mardis à 20h à l'adresse suivante.
Centre chrétien évangélique d'Andrézieux, 4 bis boulevard Jean Jaurès, 42160, Andrézieux-Boutéon.
Si vous désirez écouter d'autres conférences, vous pouvez les commander soit au comptoir de notre librairie, soit par téléphone au 04 77 36 67 45, en laissant sur notre messagerie vocale vos coordonnées et les numéros des conférences désirées.
Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente écoute.
Chambre haute avec des murs. Et mettons-y, parlons pour lui, un lit avec une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Nous avons vu dans ce premier passage déjà donc l'hospitalité. C'est la première chose que nous avons vue à travers ce couple. Et nous avons vu combien il y a de richesses à récupérer lorsque nous sommes dans cet exercice de l'hospitalité. Et puis, nous avons vu également pourquoi il y avait une chambre haute qui a été bâtie pour cet homme. Et nous avons vu que c'était la recherche de la présence de Dieu. Et puis, nous avons vu également que cette chambre haute, elle avait des murs. Et nous avons parlé mardi dernier sur ces murs, nous avons parlé de la sanctification du chrétien qui étaient ces murs de protection qui empêchaient finalement l'ennemi d'une certaine manière de nous atteindre. Et dans cette chambre, il y a encore autre chose. Il y a un lit. Alors c'était essentiel que dans une chambre on mette un lit, parce que certainement que cet homme avait besoin de se reposer. Et je crois que cela justement nous parle d'équilibre. D'équilibre dans notre vie personnelle. D'équilibre également dans notre vie de famille, notre vie de couple. D'équilibre aussi dans notre vie spirituelle. Et là, j'aimerais voir avec vous quatre domaines essentiels, quatre points essentiels ce soir. L'équilibre personnel. Merci. L'équilibre dans notre vie de famille, l'équilibre dans l'intimité du couple et l'équilibre également dans notre consécration avec Dieu. Je crois que ces quatre domaines qui sont importants et quatre domaines que nous pouvons retrouver dans la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous, mais également que cet homme pouvait vivre aussi. L'équilibre personnel donc et le repos. Élisée, on s'en rend compte, n'était pas un surhomme bionique. Il n'avait pas des facultés surnaturelles dans le domaine physique et il avait certainement besoin d'un équilibre et par conséquent certainement qu'il avait besoin aussi de dormir. Ça vous arrive de dormir vous de temps en temps ? En ce moment, on ne dort pas beaucoup avec les chaleurs qu'il fait. Et quand on ne dort pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? On est réveillé, oui, ça c'est vrai. Mais on est fatigué. Et quand on est fatigué, on a envie de dormir. Et comment on fait comprendre à l'autre qu'on a envie de dormir, qu'on est fatigué? Généralement, ce n'est pas la fête à la maison, hein. Souvent, la fatigue peut nous peser. Et c'est vrai que quand on est fatigué, on devient fatigant. C'est vrai que parfois, on pense que pour être près de Dieu, il faudrait certainement être des surhommes ou des surfemmes. Il faudrait avoir un certain nombre de qualités assez exceptionnelles et extraordinaires. Et quand on lit parfois, c'est vrai, certains témoignages, ou qu'on entend certains témoignages, on a l'impression parfois que c'est vrai, ces gens-là, mais on ne les atteindra jamais. On se demande même s'ils dorment. Quand on lit les témoignages qu'ils donnent, quand on les lit comme ça d'affilée, il semblerait qu'ils sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la présence de Dieu, à parler en langue, à opérer des signes, des prodiges et des miracles, et que continuellement, il y a quelque chose qui se passe, etc., etc., et que finalement, pour eux, la nuit comme le jour, ça se confond, il n'y a plus aucune différence, ils sont tout le temps là, éveillés, dans la présence du Seigneur, etc., etc. Et nous, quand on lit ça, enfin moi en tout cas, quand je lisais ça, ça nous décourage assez rapidement. Parce qu'on se dit, mais nous qui aspirons, parce que vous aspirez à être dans la présence de Dieu. Il y en a deux. Et les autres ? On aspire à être dans cette présence de Dieu. On aspire à vivre de plus grandes choses avec lui. On aspire à le découvrir, à le connaître davantage et à faire, bien sûr, des expériences avec lui. Et c'est vrai que lorsque nous commençons à lire des choses comme cela, on se dit, oulala, mais moi je n'y arriverai jamais. Certainement qu'il faut être quelqu'un de très spécial pour vivre de grandes choses avec Dieu. Ou alors il faut être particulièrement choisi de lui. Et seule finalement une certaine élite du peuple va pouvoir vivre quelque chose de particulier, de profond, de sincère et de puissant avec Dieu. Et là on commence à se mettre toutes sortes de fausses idées en tête. Maintenant, ça ne me fait plus rien quand je lis ces témoignages, parce que je sais que ce n'est pas vrai. Non pas qu'ils mentent, mais peut-être même que dans le récit, c'est certainement entrecoupé d'autres périodes moins glorieuses, difficiles, éprouvantes, même des moments et des situations terribles où certains sont même parfois tombés dans la dépression. Et nous avons des exemples bibliques où il y a eu des situations difficile. La Bible nous dit que Élie, par exemple, était un homme de la même nature que toi. Pareil. Et quand on lit ce prophète Élie, ce qu'il a accompli, on se dit, mais quel homme de Dieu! Il a vécu et traversé des moments extraordinaires. Quand il réclame le feu du ciel, le feu la tombe sur les holocaustes, et puis alors qu'il s'est rempli d'eau, il n'y a même pas un briquet, une allumette, rien, le feu vient et consume l'holocauste devant tous les prophètes de Baal. C'est un miracle extraordinaire, tout le monde est à ce moment-là, et il suffoque d'étonnement, ils sont là, ils disent mais c'est pas possible, comment une telle chose est arrivée? Quelque temps après, essayez de faire ça. Il se met à prier et il dit maintenant qu'il n'y ait plus une seule goutte de pluie qui tombe si ce n'est à ma voix. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il n'y a plus une seule goutte d'eau qui va tomber sur le pays. Vous avez essayé de faire ça déjà? Et puis vous le retrouvez en haut de la montagne, la Bible nous dit il est là à genoux, la tête entre les jambes, il commence à prier et à 7 reprises il va prier. Et il va dire maintenant à son serviteur, dépêche-toi de courir, annonce-leur que la pluie va arriver, parce que je vois un tout petit nuage là-bas, pas plus gros que la paume de ma main, mais tu vas voir l'orage qu'il va y avoir. Ça faisait 3 ans et demi qu'il ne tombait plus une goutte d'eau. Et puis à sa parole, l'orage est arrivé, la pluie est tombée. Et puis il a vécu des choses extraordinaires, il a vu la résurrection de cet enfant, il avait des choses formidables. Et ce, quand on lit tous ces récits, tous ces miracles, on se dit, mais cet homme était vraiment quelqu'un de particulier. Et il était certainement très spécial. Il ne devait pas manger les mêmes choses que nous, il ne devait pas avoir le même caractère que nous, il ne devait pas parler de la même manière, il ne devait pas avoir de pensées négatives comme nous pouvons en avoir parfois. Certainement qu'il n'a jamais été saisi par le découragement, certainement que... Et puis on se rend compte que la dépression l'a saisi, qu'après quelques miracles comme ça, il s'est retrouvé là dans un lieu à part, et la seule chose qu'il demande à Dieu, c'est « Maintenant, si tu peux me faire mourir et me reprendre, ça serait la meilleure chose que je réclamerais. » Il est dans une dépression profonde, et la Bible nous dit que tout simplement, Élie était de la même nature que nous. Parfois on lit des choses qui sont étonnantes, comme cet homme qui voulait toujours rester en prière la nuit, c'était un serviteur de Dieu, et alors j'ai lu ça dans sa biographie, pour ne pas s'endormir, lui pouvait le faire, moi j'ai des soucis, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, il s'accrochait les cheveux avec une ficelle, et il l'accrochait au plafond. Et dans la nuit quand il s'endormait, alors c'est bien sûr ça lui tirait les cheveux, alors hop, ça le réveillait. Alors de nouveau il se remettait en prière, et puis, et je ne sais plus combien de temps il a eu l'occasion de faire ça, il voulait absolument rester éveillé pour intercéder, pour prier. Je ne juge pas ce que cet homme ou comme d'autres ont pu faire. Je ne juge pas leur attitude ou ce qu'ils ont fait. Ce que je dis simplement, c'est que nous devons apprendre, parce que la Bible nous enseigne, à être des hommes et des femmes équilibrés. À être des hommes et des femmes sans excès. Oh, maintenant, ce n'est pas parce qu'on parle d'excès que justement on va rien faire, parce qu'il y a des excès dans le zèle, mais il y a souvent aussi des excès dans la fainéantise. Et là encore, l'équilibre veut que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Mais c'est vrai que dans le zèle, on peut avoir des excès. Je me souviens de ce jeune couple dont le mari partait souvent distribuer des prospectus, toujours au moment des repas. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la femme, elle commençait à m'avoir un petit peu ras-le-bol. Et je la comprends, parce que ça manquait d'équilibre. Je crois que Dieu ne désire pas de notre part de la fainéantise, ni de personnes qui ne l'écoutent pas, qui ne comprennent pas ce qu'il leur demande. Mais il ne désire pas non plus un zèle excessif et charnel. Parce qu'avec l'un comme avec l'autre, Dieu ne peut pas agir, il ne peut pas travailler. Il nous veut, nous, tels que nous sommes. Dans Marc, au chapitre 6 et au verset 31, Jésus même leur dit, venez, il parle à ses disciples, il dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et je crois que ça c'est bon, parce que Jésus savait que finalement ses disciples, comme lui-même d'ailleurs, avaient aussi besoin de repos. Et je crois que dans notre vie, nous devons organiser cela aussi. Alors je ne dis pas ça parce que c'est les vacances, mais nous avons besoin de repos. Nous avons besoin d'équilibrer notre vie pour que nous soyons aussi reposés. Un peu plus loin, il est dit dans Marc 4, 38, il est question de Jésus. Connaissez ce texte, il nous est dit que Jésus dormait à la poupe sur le coussin. S'il dormait, ce n'est pas simplement pour cette histoire qui nous est relatée ici. Mais je crois que s'il dormait, c'est que certainement, il était sincèrement fatigué, qu'il avait besoin de repos, tout simplement. Et je crois que si Jésus avait besoin de repos, par conséquent, nous pouvons en avoir besoin aussi. Quand nous serons dans le ciel, nous aurons du repos pour l'éternité. Ici-bas, nous avons besoin de nous reposer également et de prendre aussi du temps. Un peu plus loin, dans Actes 12, 6, regardez bien ce qu'il dit ici, vous connaissez ce texte, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait comparaître, les questions de Pierre. Pierre était lié de deux chaînes et il dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ça, c'était pas des bonnes sentinelles, mais ça fait rien. En tout cas, là, le contexte que j'aimerais retenir, c'est que Pierre, ici, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais il allait comparaître et il était destiné à... Vous savez le truc qui tranche assez rapidement la gorge, là. Oh, il n'aurait pas souffert longtemps, hein, ça allait être fait rapidement. Exactement la chose qui avait été faite quelque temps avant pour Jacques. Il n'y avait pas eu de détails, hein. Et ça plaisait au peuple, donc il n'y avait aucune raison pour que Hérode s'arrête, bien au contraire. Donc Pierre, il savait ce qu'il attendait ici. Il est dans l'épreuve, il est dans la difficulté, et parfois nous-mêmes on se dit, mais dans l'épreuve, dans la difficulté, oh non, je ne peux plus dormir, je suis angoissé, ça ne va pas, j'ai des soucis, j'ai des inquiétudes, j'ai des angoisses, etc. Est-ce que si vous attendiez la mort le lendemain, vous n'auriez pas quelques inquiétudes? Ne sachant pas finalement quel sort il vous est réservé et comment vous allez finir. Et jusqu'où votre tête va être promenée après, comme celle de Jean, vous savez, il l'a fait venir sur un plateau, etc., pour que tout le monde vous la voit bien, et que le gars a bien été décapité, etc. Eh bien, malgré cette tension, malgré cette oppression, malgré le fait que Pierre était dans cette situation, il dormait entre deux soldats. Alors, on peut peut-être dire beaucoup de choses, mais on pourrait dire aussi qu'il avait une pleine confiance en son Seigneur. Et que, malgré finalement ce qui pouvait advenir de lui, il savait, un, où il allait, s'il devait mourir. Et la deuxième chose, c'est que s'il ne devait pas mourir, bien de toute façon, une autre voie, une autre porte allait s'ouvrir pour lui. Il avait confiance en Dieu. Il ne se faisait pas de soucis à l'extrême. Il ne s'inquiétait pas. Et même dans cette situation-là, il pouvait encore dormir. J'aimerais te dire que parfois, notre vie, elle est aussi entre deux soldats. Parce qu'il y a deux soldats de l'ennemi qui veulent nous oppresser continuellement, qui veulent nous écraser et nous faire quoi? Faire en sorte de nous faire perdre notre paix, faire en sorte de nous faire perdre notre sérénité, en sorte de nous faire perdre tout simplement notre calme, non simplement notre joie et notre vie, et cette vie abondante avec le Seigneur, mais également nous déstabiliser dans notre foi. Et le fait de ne pas nous laisser dormir, de ne pas nous laisser nous reposer, d'être toujours en agitation, fait que physiquement on arrive à un moment où on n'en peut plus, où on est épuisé, où on est fatigué, où on est là, on a envie de tout balancer. Et les premiers qu'on balance, généralement, ce sont ceux qui sont autour de nous. Eux, ils y sont pour rien, ils viennent d'arriver, ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Et gratuitement, ils ramassent. c'est une parole, c'est une mauvaise attitude, c'est une action. Bref, vous savez de quoi je parle. Nous sommes de la même nature. Et je crois que quand le diable arrive à cela, il rigole bien et dit, tu vois, là, j'ai réussi finalement à le déséquilibrer. J'ai réussi à lui faire perdre confiance et finalement, il est là dans des situations où, quand on l'oppresse un peu trop, eh bien, il a du mal à gérer, à s'équilibrer, à se freiner, à se restreindre et finalement à ne pas continuer dans cette paix que Dieu va lui donner. Et je crois que quand ces choses viennent sur notre vie, à nous, de dire non, je ne vais pas faire le jeu de l'ennemi. J'ai une situation peut-être difficile, je suis entre deux soldats qui m'oppressent, mais je veux quand même me forcer à mettre ma confiance en toi, Seigneur. Je veux que tu me fasses demeurer pleinement dans ton repos, dans ta paix, dans cette tranquillité. Et là, nous avons besoin d'apprendre l'équilibre. C'est vrai que parfois, on a besoin de donner. Il y a des moments où il faut travailler. Il y a des moments où il va falloir se mettre à genoux. Il va falloir peut-être passer des nuits à genoux. Oui, il y aura des temps pour ça. Et là aussi, c'est une question d'équilibre. Il faut discerner les temps où on a besoin de se tenir à genoux comme les temps où on a besoin de dormir. Et Dieu les connaît. Et nous devons apprendre à les connaître également pour pouvoir être victorieux. Autrement, nous sommes dans un déséquilibre et nous faisons des bêtises. Je crois que Dieu veut nous donner l'équilibre divin pour le servir. Je me souviens au début du mariage, j'en profite, ma femme elle n'est pas là ce soir. Et un soir, je rentrais comme ça et j'avais croisé une personne qui faisait du stop. Et arrivé à la maison, ma femme avait préparé le repas. Vous savez, comme au début du mariage, là. Tout bien préparé, mais c'est ça, ça continue encore, hein. Presque 12 ans après, c'est toujours aussi bien préparé. C'est vrai en plus, hein, comment je ne le dirais pas. Mais alors, il y avait vraiment là, c'était un moment bien sûr particulier, tout ça. Et moi, j'étais pris de remords. Et je me disais, ah, mais le Seigneur m'avait demandé de lui parler, j'aurais dû lui parler à cette personne-là. J'étais pris de remords, de culpabilité, et je me disais, mais t'aurais dû prendre cette personne, t'aurais dû lui parler du Seigneur, etc., etc. Et donc, pris dans cette émotion et ces sentiments, je dis à ma femme, le Seigneur, il me demande d'aller retrouver cette personne et d'aller lui parler. Alors elle me dit, mais tu vas pas ressortir maintenant, c'est tard, tu la retrouveras pas. Et puis j'ai tout préparé pour toi. Je dis, mais si, il faut que j'y aille. Je ressens ça vraiment sur mon cœur, il faut que j'y aille, etc. Donc je sors. Vous savez, quand on a décidé quelque chose, nous les hommes, hein, alors on sort. Ben, je sors, je prends la voiture, j'y vais. Et puis bien sûr, là où la personne était, ben, elle n'était plus. J'ai tourné sur quelques routes pendant un moment, etc. Et puis bien sûr, c'était trop tard. Quand je suis rentré, non seulement j'étais déçu, mais pour deux choses. Un, de ne pas avoir su quand c'était le moment, peut-être de prendre cette personne et d'y parler. Deuxièmement, d'avoir cru ensuite que Dieu me demandait de faire quelque chose, alors qu'en fin de compte, il ne m'avait rien dit. Mais que mes sentiments, mes émotions, finalement, m'avaient dirigé. Donc j'étais déçu pour ça, j'étais déçu pour le fait que finalement, j'avais aussi, d'une certaine manière, bâclé ce que ma femme avait préparé. Donc je ne l'avais pas respecté non plus, dans ce qu'elle avait fait aussi par amour pour moi. Et je crois que dans tout ça, on a besoin d'équilibre. Je vais vous donner une autre balance et un autre équilibre. Quelques mois plus tard, nous sommes dans un repas de famille, et avec moi, il y a là des personnes, et particulièrement une personne inconvertie. Et on commence à parler du Seigneur, on partage ensemble un certain nombre de choses, on mange, etc. Et là, je reçois un coup de téléphone. Et là, quand je reçois ce coup de téléphone, on est en train de m'expliquer qu'une personne de ma famille se trouve sur un lieu précis, et sur ce lieu précis, elle est en train de se faire agresser. Elle est sur une foire internationale, et là, ça commence à chauffer très sérieusement. Et on me dit, il faut vraiment que tu pries là pour cette situation, parce que... Et au moment où on me dit ça, je suis saisi vraiment par le Saint-Esprit. Et je raccroche, et je vais voir mon épouse, et je lui dis, il faut absolument que je prie pour cette situation, parce que voilà ce qui se passe. Et en quelques mots, sans rentrer dans trop les détails, puisqu'il y avait des personnes inconverties qui étaient là, je lui dis, il faut que je me mette à prier. Alors je m'enferme dans ma chambre, et là, à genoux, dans le vestibule, je commence à intercéder et à prier. Et je suis resté là, je ne sais plus combien de temps, entre une demi-heure et trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Mais je suis resté jusqu'à un moment où j'ai ressenti que c'était fini. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur qui me disait, voilà, maintenant tu peux retourner manger. Tu peux retourner avec les gens avec qui tu parlais tout à l'heure. Voilà, maintenant il y a quelque chose qui vient de se terminer. Je ne pouvais pas contacter la personne qui était sur place là-bas, puisque à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, ou très peu. Elle m'avait appelé d'une cabine. Mais quelques semaines plus tard, j'ai revu cette personne-là et elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Elle m'a expliqué combien l'agression était finalement grave quand elle m'a téléphoné, parce qu'il se jetait des ustensiles de stand à stand. Enfin bon, la police est arrivée, mais vous savez, là c'est un milieu un peu mafieux. Alors la police, elle y va pas trop. Ils attendent qu'ils règlent leur compte, puis ils y vont généralement après. Seulement là, ils ont réglé leur compte, vous voyez, à la mitraillette, et avec ils étaient armés. Enfin, c'était une situation vraiment très particulière, très particulière. Et je lui ai dit, mais combien de temps ça a duré? Elle me dit, ça a duré, je ne sais plus, mais entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Où c'était tellement intensif, on a cru qu'on allait y laisser notre peau. Et puis ensuite, ça s'est comme dégagé, il y a eu comme un miracle. Elle me dit, quelque chose s'est passé, et puis pouf, ça s'est dissipé, et ça s'est arrêté. Là, j'ai compris la différence qu'il y avait entre la première expérience et la seconde. Et je crois que nous sommes amenés à vivre, bien sûr, des choses comme cela. Et quand Dieu nous voit être sensibles et compréhensibles à sa parole et à ce qu'il veut accomplir, alors là, il peut vraiment nous utiliser. Parce que nous sommes fidèles dans ce qu'il nous demande. Et non seulement nous sommes fidèles, mais en plus, nous voyons le résultat. Et par conséquent, nous sommes encouragés. Et nous disons, eh bien, j'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas fait non plus de la, comment on appelle ça, de l'automotivation. Vous savez, quand on fait quelque chose et puis que ça rate de partout, mais on se dit, oh, mais il y a bien des choses qui se sont passées, mais on les a pas vues. On les verra dans le ciel. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on verra dans le ciel, et heureusement. Mais quand même, je crois que Dieu sait nous encourager aussi par des choses concrètes, visibles et véritables, pour que justement nous puissions continuer la marche avec lui. Alléluia. Alors notre marche comme ça, et nous avons ces vrais besoins du repos. Deuxièmement, un équilibre dans notre vie de famille. Et là, je crois que c'est important aussi, un équilibre dans notre vie de famille, c'est être présent aussi à la maison, avec les enfants, présent avec l'épouse, présent avec le mari. Et ça aussi, je crois qu'on n'en parle pas suffisamment, mais pourtant la Bible nous parle aussi de cet équilibre-là. Savoir donner du temps. Ah, c'est pas facile. Surtout nous, les hommes, quand on rentre du travail, on est fatigué, on en a assez, et on a envie de vivre et de faire autre chose. Mais je crois qu'on a besoin, si on a fait des enfants, eh bien, il ne suffit pas de les faire, mais il faut les élever après. Et ça, c'est un autre plaisir. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est même des fois douloureux. Il y a de la souffrance, parfois même, c'est vrai, il faut le dire. Des fois, ça se passe bien également. Mais il faut savoir donner du temps à nos enfants, s'occuper de leurs devoirs, s'occuper de leurs jeux, savoir les amener aussi à l'école, que ce ne soit pas toujours la femme. Alors bien sûr, ça s'organise à travers nos occupations, à travers notre travail, à travers notre organisation. Mais je crois que, là je vais encore gagner des points auprès des dames, je crois que les dames aiment quand on leur donne de temps en temps un petit coup de main. Quand on ne s'occupe pas uniquement que de nos affaires. Mais comme vous le faites, chers frères, régulièrement, la vaisselle... Oh, de temps en temps, un petit coup de ménage. Oh, vous allez acheter des fleurs à votre épouse. Pas parce que c'est sa fête, mais simplement parce que c'est un jour comme ça, vous avez envie de leur faire plaisir. C'est ça que vous faites. Je pensais que les hommes allaient dire un grand « Eh oui, c'est ça qu'on fait, alléluia !» Eh bien, c'est ça que vous allez faire. Et là, c'est les sœurs qui disent « Amen !» Mais je crois qu'il y a des choses très simples qui font plaisir de temps en temps et il nous faut apprendre à les faire également. C'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais par conséquent, et en parallèle, on peut dire aussi que la femme peut aussi prendre part parfois aussi à ce que l'homme peut faire, à ses activités, à ses actifs professionnels, même si elle n'y comprend peut-être pas grand-chose parce que c'est pas son domaine. Elle peut quand même apprendre à s'y intéresser et finalement à en donner de la valeur également. Bref, je crois que dans tout cela, il y a de l'équilibre aussi. Et c'est ça qui fait que finalement le couple marche bien. Dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 4, il est dit « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et écoutez, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, parce que cela est agréable à Dieu. » Simplement une parenthèse pour dire que si vous voulez que vos enfants vous rendent ce que vous leur avez fait, commencez par leur faire des petites choses. Qui les marquent, qui vont les affecter, les marquer d'une manière particulière. Et quand ils vont grandir, ils vont vous rendre l'appareil. On sera nous vieux, on aura peut-être la canne, ou les cannes, ou peut-être autre chose, bref. Mais parce qu'on leur aura donné, ils nous donneront aussi. Et je crois que c'est un calcul mathématique et spirituel que Dieu nous enseigne ici. 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, et c'est grave, je trouve, ce qu'il dit ici, il a, écoutez bien, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » Moi, je trouve que c'est grave. C'est fort. C'est important ce que l'apôtre Paul dit ici à Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, donc nous devons considérer notre famille. Là aussi, il y a un équilibre. Moi, j'ai connu des gens qui, par exemple, ne se sont jamais mariés, parce qu'ils se sont toujours occupés soit de leur mère, de leur père. Là, il y a un déséquilibre aussi. Et j'ai un ami qui est mort il n'y a pas très longtemps de cette situation, d'une certaine manière. Et jamais il ne s'est marié. Il aurait eu à une époque une occasion de pouvoir se marier, de faire aussi sa vie. C'est pas pour autant qu'il aurait délaissé sa mère, mais il y avait une telle relation, il y avait une telle fusion. Et puis il faut dire aussi qu'il y avait une telle mère parfois possessive qui faisait... Je connais des situations, on a suivi des jeunes filles, hein, qui sont des jeunes filles bien avancées en âge maintenant, mais il y en a une, je crois qu'elle a 45 ans, l'autre elle a 42 ans, mais elles n'ont jamais pu quitter la maison. Et quand on voulait les prendre avec nous pour partir faire une activité, ce soit avec les jeunes, etc., elles étaient plus trop jeunes, mais on les prenait quand même, parce qu'on connaissait la situation, le contexte, on s'est dit, on va les prendre quand même. J'étais, moi, le pasteur, obligé de téléphoner à la maman pour leur demander, pour lui demander la permission. Heureusement que je n'étais pas le pasteur de cette maman-là, parce qu'il y a longtemps que je lui aurais passé un sacré savon. Parce que j'estime que c'est un manque de déséquilibre, c'est égoïste. Égoïste. Et vous condamnez la vie de vos enfants. Et je crois qu'il y a des situations que nous devons réfléchir. En toute chose, nous avons besoin d'un équilibre. Et c'est vrai qu'on a besoin que les choses se mettent en place. Si on a fait des enfants, c'est pour que les enfants ils grandissent, qu'ils prennent aussi leur autonomie, qu'ils se marient, qu'eux-mêmes ils aient ensuite des enfants, etc., etc., etc. Et je crois que nous avons besoin de réfléchir à cet équilibre-là. On passe à la partie C, qui est un autre équilibre, dans l'intimité du couple également. Alors, je n'aurai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, mais je crois que Dieu a créé l'homme également dans le contexte du mariage. Et dans le contexte du mariage, il y a aussi la sexualité. Souvent, le conseil que je donne, c'est que si vous ne voulez pas de sexualité, surtout, ne vous mariez pas. Ça paraît bizarre, mais je connais des personnes qui veulent se marier, mais elles ne veulent pas de la sexualité. Elles doivent rester célibataires. Alors bien sûr, le célibataire, elle souffre après d'un manque d'affection, d'un manque de compassion, de tendresse, d'amitié, etc. Alors elles veulent se marier, mais en se mariant, elles ne veulent pas de sexualité. C'est valable aussi bien chez l'homme que chez la femme. Plus chez la femme que chez l'homme d'ailleurs. Mais c'est là aussi un déséquilibre et un problème. Je crois que si Dieu a mis à notre disposition cette sexualité dans le contexte du mariage, on est bien obligé de remettre un petit peu les choses à leur place aujourd'hui dans la moralité, et je suis obligé de préciser avec deux personnes de sexe différentes. Donc si Dieu a prévu ça à la base, et c'est le contexte normal au départ, si Dieu a mis cela à notre disposition, c'est que certainement nous en avons besoin pour notre équilibre. Et ça fait partie de l'équilibre de l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire de la race humaine, aussi bien de l'homme que de la femme. Il y a un équilibre qui a 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. J'ai pris cette version dans la parole vivante et il dit ceci. Que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Juste une parenthèse pour dire qu'on n'a pas le droit de prendre ces versets-là pour finalement faire à notre femme ce que nous voulons et la femme à son mari ce qu'elle veut. Parce que le contexte d'amour tel que Dieu l'a créé, c'est dans un respect mutuel. Nous nous appartenons plus, pourquoi ? Parce que nous nous donnons à l'autre par amour, c'est vrai. Mais toujours dans le respect et dans un accord mutuel. Jamais en obligeant l'autre à vivre ce que l'autre n'a pas envie de vivre. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que dans le contexte même de la vie conjugale, et quand je fais des séminaires couple ou autre, je parle souvent qu'il n'y a pas une vie sexuelle type. Il y a ce que la Bible nous enseigne, mais il y a après ce que l'homme et la femme sur le plan personnel va vouloir vivre, va vouloir accepter, va vouloir partager. Et là on va trouver des différences, mais elles ne sont pas graves dès le moment où elles sont partagées dans l'amour et dans le respect mutuel. Comprenez? Alors on continue. Et il est dit, ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes convenir mutuellement de renoncer pour un certain temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais que ce soit pour une courte période après laquelle vous reprendrez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan le moyen d'exploiter votre incapacité à dominer vos instincts. Je crois que l'apôtre Paul, il est clair dans ce qu'il dit. Exploiter notre incapacité à dominer nos instincts. Ça veut dire quoi? Mais quelque part, ça veut dire aussi que la sexualité, on pourrait dire, je ne vais pas faire un parallèle avec ça, mais quelque part, c'est comme un produit qui, sur notre corps, pourrait créer une accoutumance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça crée un besoin. Et pourquoi le livre des Cantiques nous dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ». J'espère que je ne vous mets pas mal à l'aise ce soir quand je vous parle de ça. Mais tout simplement parce que l'auteur des Cantiques savait très bien que lorsque l'amour commence à être réveillé, c'est quelque chose qui est attisé, ça crée un besoin, ça crée une envie, ça crée par conséquent une dépendance. Et plus il y a de la sexualité, plus on en redemande. C'est le principe physiologique que d'après l'homme et la femme est constitué. Quand vous regardez ceux qui, par exemple, vivent dans toutes sortes de perversions sexuelles, ou quand vous regardez ceux qui, même à cause de cela, vont faire des meurtres et vivent des drames épouvantables, eh bien, il en faut toujours davantage, toujours plus d'excès. Et regardez notre monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut toujours davantage d'excès, toujours aller plus loin dans certains contextes et dans certaines choses que je ne traiterai pas là ce soir. Mais ici, il nous est dit tout simplement que finalement, eh bien oui, la Bible nous dit que l'acte conjugal, cette relation d'amour avec l'homme et la femme, eh bien il y a besoin d'un équilibre. Alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, si vous voulez en savoir davantage, eh bien vous avez des cassettes sur la sexualité dans le couple et comment eh bien réussir son couple, etc., etc. Vous pourrez les écouter. Mais dans ce domaine-là, comme dans les autres, nous avons besoin d'un équilibre et de vivre pleinement cet équilibre, et que l'homme puisse donner à sa femme ce qu'elle attend, et que sa femme puisse donner aussi à l'homme ce qu'il attend également. J'aimerais dire que certains parfois pensent que l'acte conjugal est quelque chose de sale, dont il vaut mieux éviter de parler parce que ça gêne, ça dérange. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'églises où on parle de sexualité. Mais si des personnes pensent cela, je suis obligé de passer vite là-dessus parce que j'ai pas le temps, mais si des personnes pensent cela, c'est bien souvent pour différentes raisons qui sont, c'est vrai, des fois tout à fait évidentes. Par exemple, parce que le monde a sali ce que Dieu a créé. Et Dieu a créé la sexualité comme quelque chose de pur. Mais l'homme a transformé cela. Et l'éducation morale, religieuse et familiale ont placé la sexualité sur un second plan. Et certains disent, bah, finalement, l'acte conjugal, c'est pour procréer, point. Mais c'est pas vrai. L'acte sexuel, ce n'est pas simplement pour procréer et faire des enfants. Mais c'est pour que le couple trouve un véritable plaisir et un véritable épanouissement. Et dans l'acte sexuel, il n'y a rien d'impur, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Et la relation conjugale, dans le contexte, encore une fois, du mariage, tel que Dieu l'a institué, c'est quelque chose qui est pur. Mais c'est vrai que certains peuvent le considérer différemment à cause de ce premier point. Deuxièmement, parce que d'autres ont mal vécu certaines expériences justement dans ce domaine-là, et alors à partir de là, ça les a amenés en dégoût. D'autres ont été abusés également, et par conséquent, il est tout à fait compréhensible qu'aujourd'hui, il leur est très difficile de rétablir une relation qui soit normale, même dans le contexte du mariage, et même selon les plans de Dieu. Et là, il y a besoin de guérison, il y a besoin de restauration. Et Dieu est capable de le faire. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une jeune femme qui aujourd'hui elle prêche l'évangile. Elle était lesbienne et quand elle raconte sa vie, elle parle de la situation épouvantable et la descente aux enfers qu'elle a vécue, parce que vous savez, il y a
tout ce qu'on entend à la télévision et puis tous ceux qui sont là pour nous faire promouvoir que libérer notre vie sexuelle et puis finalement vivre tout ce qu'on a envie de vivre, ça nous épanouit et c'est formidable. Et puis il y a la réalité de ces gens-là après. Le tête-à-tête, le face-à-face, les yeux dans les yeux, quand on leur parle réellement de leur vie, là c'est un autre langage très souvent. Et ils ont d'autres mots et d'autres positions et certainement aussi d'autres revendications. Mais Dieu a changé cette femme-là. Il l'a transformée au point où maintenant elle est mariée avec un pasteur, elle a des enfants et elle prêche l'évangile. Dieu est celui qui guérit les cœurs, qui change les situations, les plus dramatiques, les plus difficiles qui soient. Par la grâce de Dieu, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont souffert parfois même d'abus sexuels, et puis qui effectivement, quand ils se sont convertis et retrouvés dans la situation de couple, eh bien même leur vie conjugale était très difficile, parce que justement il y avait tout le souvenir du passé. Il y avait toutes ces images qui étaient encore là, et toutes ces souffrances qui étaient dans le cœur. Et certaines personnes, en gardant tout ça dans leur vie, pensent que finalement, eh bien, elles ne pourront jamais vivre une relation finalement de couple et amoureuse normale. Et ça, c'est ce que le diable veut vous faire croire. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que Dieu est celui qui restaure les cœurs qui sont brisés. Et il le fait encore aujourd'hui. Et peu importe de quelle manière ton cœur et ton corps a pu être brisé, ne serait-ce même en 10 000 morceaux, Dieu est capable de le restaurer complètement. Et de te redonner une vie normale. Et ça, c'est possible. Tout simplement par la foi en lui, et puis aussi par le fait de pouvoir partager ensemble, de pouvoir apporter ta situation, ton problème, et d'aller jusqu'à ce que Dieu te guérisse. Ça, c'est possible également. Ça ne se fera peut-être pas simplement en un instant. J'ai vu des situations comme ça où en un instant, la personne a été rétablie. C'est très rare. C'est très rare. La plupart des cas, ça a été des situations où ça a été fait au fur et à mesure des mois, pour ne pas dire des années. Parce que ce n'était pas un miracle qui a eu lieu à ce moment-là dans cette vie-là, mais c'était une guérison. Vous connaissez la différence qui est entre un miracle et une guérison dans les dons spirituels. Le miracle, ça intervient immédiatement. C'est un miracle. C'est-à-dire ça surpasse toutes les lois naturelles. C'est un miracle, c'est quelque chose qui intervient à un moment donné, alors que tout est contraire. Ça ne pourrait pas se passer. Mais l'intervention de Dieu est immédiate. Le don de guérison, c'est autre chose. Le don de guérison, c'est quelque chose qui commence à un moment donné et qui se finit dans le temps. C'est un don de guérison, pourquoi? Parce que normalement, humainement, c'est inguérissable, mais Dieu a décidé de guérir. Donc ça va se faire quand même. Le don de guérison, c'est ça. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que parfois on a des gens s'attendent quand ils parlent de don de guérison, ils pensent que la guérison va venir immédiatement, etc. Non, c'est le miracle qui intervient immédiatement. La guérison, elle est beaucoup plus longue dans le temps, mais elle est encore bien plus rapide, bien sûr, que soit une guérison normale, par des médicaments ou autres, soit c'est quelque chose qui va guérir, alors que de toute façon, humainement, c'était impossible que ça guérisse. Comme par exemple quand vous avez un organe qui va repousser, ou un bras qui va repousser, ou une jambe qui va repousser, ou quelque chose dans le corps qui va se remettre en place, alors que médicalement c'est impossible, bien, la guérison c'est qu'au fur et à mesure des temps, des moments, les choses se mettent en place régulièrement. Et puis enfin, certaines personnes ont du mal à vivre cela, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais été enseignées. Et ça je trouve ça vraiment dommage, parce que aujourd'hui on est dans un monde et une société où il nous faut former. Et dès que vous allez faire quelque chose, demain vous décidez de vendre des bonbons, eh bien vous allez à la NPE, ils vont vous trouver un stage de formation. Et aujourd'hui on peut être formé à outrance, sur tout et n'importe quoi. La seule chose sur laquelle on n'est pas formé, c'est lorsque un garçon pur et une jeune fille pure ont décidé de se marier. Et là on leur dit, oh non, ça on n'en parle pas parce que c'est inné, ça va se faire tout seul. Et là je suis outré parce que la Bible nous enseigne. Et je dis, pourquoi on n'enseigne pas nos enfants, nos jeunes? Pourquoi on entend qu'il faut attendre que ce soit les écoles, ou plutôt dans la cour, que nos enfants entendent toutes sortes de grossièretés, ou comme mon fils un jour qui est venu avec un mot que je ne citerai pas ici, et en rigolant, il prononçait quelques vulgarités. Et je lui dis, est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire? Et bien sûr que non, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et je crois qu'on a besoin d'enseigner. Je pars souvent du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je crois que quand on enseigne, quand on dit, après ils savent, ils prennent leurs responsabilités, comme vous et moi, chacun en prend nos responsabilités. Mais on sait où on va, ce qu'on a à faire, comment on doit le faire. Et je crois que dans ce domaine-là, on devrait davantage enseigner les jeunes, c'est vrai, mais nous, parents, on devrait s'enseigner pour pouvoir enseigner nos enfants ensuite. Et là, on aurait du travail. Alors voilà quelques points ici qui nous pourraient nous permettre finalement de comprendre pourquoi certaines personnes pensent que cette situation eh bien, est difficile et que finalement ben, certains se sont mariés, alors ils vivent l'acte conjugal comme cela. Sachez que ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Dieu est allé beaucoup plus loin dans tout cela, puisqu'il a voulu communiquer à l'homme comme à la femme un véritable plaisir. Et l'homme et la femme mariés doivent donc par conséquent apprendre ensemble ce que c'est que le respect mutuel de l'acte de l'acte d'amour et de ce partage ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez d'autres précisions, ben vous pouvez regarder ces cassettes qui sont aussi à votre disposition. Je vais simplement terminer en parlant du célibat un petit peu, avant de terminer le dernier point, parce que bien sûr, cet homme, Élisée, lui, il n'était pas marié. Alors il y avait un lit, c'est vrai, dans la chambre, et là aussi il avait certainement un équilibre à vivre. Certainement qu'il avait reçu aussi le don du célibat, comme l'apôtre Paul l'avait reçu. Et je crois que ceux qui ont choisi le célibat, ou qui le vivent, comme on le dit parfois, bon gré, mal vrai, eh bien, doivent aussi vivre dans cet équilibre. Et apprendre à vivre en célibataire, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 7, il est dit ceci. Paul dit, « Personnellement, je souhaiterais que tout le monde soit comme moi. » Mais je sais que chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un, le don du célibat, l'autre, celui du mariage. J'aimerais cependant dire aux non-mariés, et en particulier aux veuves, que c'est une bonne chose de vivre seul comme moi. Toutefois, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas reçu le don de continence, et ne peuvent se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de consumer en désir insatisfait. Donc la vie de célibat, elle n'est pas, c'est vrai, toujours évidente, mais certains le reçoivent. Et c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de m'étendre non plus ce soir sur ce point-là, mais il y a aussi des richesses à vivre dans ce domaine-là. Il y a aussi vraiment de grandes bénédictions à recevoir de Dieu aussi dans ce domaine-là, mais tout dépend comment on prend les choses et comment on les vit. Si on les vit comme une fatalité, ou si on les vit finalement comme une situation, comment dirais-je, bien qui arrive comme cela et que finalement ben on l'a pas voulu mais on la vit de cette manière-là et qu'on n'en retire pas finalement tout le côté positif, eh bien ça sera effectivement très difficile de s'engager, de marcher avec Dieu dans ce contexte-là. Mais si on va un peu plus loin et qu'on laisse dans ce domaine-là aussi Dieu nous enseigner, je crois que cela peut nous apporter aussi de bonnes choses. Voilà, je termine avec quatrième partie, un équilibre dans notre consécration, dans notre relation avec Dieu. Et je termine rapidement avec ça pour dire que même dans notre consécration, même dans notre relation avec Dieu, même dans notre intimité avec le Seigneur, nous avons besoin d'équilibre. Et certains pourraient dire, mais non, là, au contraire, il faut tout donner, il faut... Oui, il faut tout donner, c'est vrai. Il faut tout donner, il faut donner notre temps, il faut donner notre vie, il faut donner... Tout ça, c'est vrai. Mais dans un équilibre. Si, par exemple, nous sommes mariés et que nous avons des enfants, c'est pas la peine de vivre comme si on était un célibataire. Et donner toute notre vie à Dieu, en disant, eh bien voilà, je travaille pour toi, je prends du temps pour toi, je prie pour toi, je pars à droite, je pars à gauche, etc. Comme si nous étions seuls. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de se marier, de faire des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut donner notre vie. Bien sûr que dans notre consécration pour Dieu, il passe avant toute chose, c'est vrai. C'est là où il y a l'équilibre de la famille également. L'équilibre de la famille, c'est Dieu, le Fils, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Ensuite vient le Père, la mère, donc le couple, et après viennent les enfants. Et c'est là où beaucoup des fois disent, oh, ah bon, vous êtes sûr que les enfants ils passent pas avant le père ou la mère? Ben non, les enfants ils passent après, parce que ceux qui ont fait les enfants, c'est l'unité du couple. Et si vous laissez les enfants vous diviser, il n'y a plus d'unité alors dans le couple. Et ce qui fait la base de la famille, c'est en premier temps le couple, et après viennent les enfants. Les enfants ils nous appartiennent pas, on les aime, on les a conçus. On les a conçus dans l'amour, on les aime énormément, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent grandir, s'accroître, aller à l'école, être intelligents, obtenir un travail, se marier, etc. Tout cela, il n'y a aucun problème, mais les enfants que nous faisons, nous devons réaliser qu'ils sont faits pour qu'un jour ils partent. Il y en a, ils voyagent la France en ce moment, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a un moment donné où ils doivent partir. C'est comme ça. Donc, à ce moment-là, il faut considérer cela. Et il faut savoir que si la femme, admettons, a été vraiment cette mère poule qui a gardé ses enfants et qui s'est attachée à ses enfants et qui avant était femme, mais s'est transformée en mère et ne s'est plus retrouvée la maîtresse qu'elle était avant auprès de son mari, suivez-moi bien, et quand les enfants partent, très souvent dans le couple, c'est une catastrophe. Quand on a appris à vivre avec un papa poule qui a placé ses enfants avant même sa femme, qui les a considérés plus que sa femme, quand les enfants ne sont plus, c'est une catastrophe dans le couple. Si Dieu a donné un équilibre au niveau du couple, c'est qu'il avait une raison pour que justement la famille reste solidaire, reste solide, ferme, et que malgré les difficultés et les drames qui puissent arriver, elle reste pour pouvoir continuer à avancer. Imaginez quelqu'un et qui est tout donné pour ses enfants, et c'est ce que nous sommes. Mais imaginez qu'il y a un déséquilibre dans le fait que, par exemple, la mère va jeter vraiment son dévolu sur un enfant, il va y avoir une telle relation avec cet enfant que finalement, elle va rester mère, mais ne sera plus vraiment femme. Et qu'il arrive un malheur à l'enfant. Que par un drame, eh bien, l'enfant soit emporté, il décède, etc. Cette femme-là, elle n'a plus de vie. Là, sa vie s'arrête avec celle de l'enfant. C'est une anomalie. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attristé, comprenez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que bien sûr on ne va pas être affecté si on touche à la chair de mes enfants, vous allez me voir réagir. Parce que c'est normal. C'est la chair de nos enfants. Quand ils sont malades, quelque part, on est affecté, bien sûr, on est touché, on est là, on se dit mais pourquoi c'est pas nous qui sommes malades à leur place. Moi, quand je voyais ma fille qui était à l'hôpital avec tous ses branchements et qu'elle avait des tuyaux de tous les côtés, je disais en moi-même, je me disais mais moi je me mettrais là à sa place. Moi je veux bien avoir les tuyaux, mais qu'elle à 3 ans et demi, 4 ans comme ça, elle est pas tout ça et à subir tous ces examens. On voudrait prendre leur place. Et malgré tout cela, la personne à laquelle j'étais le plus attaché, c'était Dieu. Et ensuite mon épouse. Et après mes enfants. Ça ne veut pas dire que j'y étais pas attaché. J'y étais très fortement attaché. Mais dans l'équilibre que Dieu donne. Et quand on garde cet équilibre-là, le couple, le foyer, il est solide, il est stable, il peut avancer et il peut faire face à tous les imprévus, toutes les difficultés, toutes les épreuves, tous les moments où l'ennemi va essayer de nous saccager, on aura de la souffrance, on aura de la douleur, on aura des combats, on aura des luttes, mais on continuera à marcher. Et on continuera à avancer. Parce qu'on sera justement dans le plan de Dieu, et on sera structuré tel que lui nous a permis de nous structurer. Selon ses plans. Et alors, quand on est structuré selon ses plans, on est fort et on est solide. Amen. Et comme ça, on peut avancer dans ces domaines-là. Alors dans la sagesse et dans notre consécration spirituelle, nous retrouvons cela bien sûr, et puis n'en faisons ni trop peu, mais ni non plus à l'excès. Nous devons être justes et faire juste ce que Dieu nous demande de vivre. Nous avons besoin d'apprendre à être équilibrés, même quand nous consacrons du temps pour Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Je me souviens un jour, mon beau-père m'a dit « J'ai fait une bêtise ». Je voulais absolument me tenir dans le jeûne et dans la prière. Et il est resté pendant 15 jours à jeûner et à prier. Le seul problème, c'est qu'il s'était poussé à l'extrême, et quelque temps après, il est tombé dans une dépression pendant plusieurs mois, où il s'en relevait plus tellement il était épuisé, il était fatigué. Et là, il a compris qu'il est allé trop loin. Que ce jeûne-là, finalement, eh bien, il voulait lui le faire, humainement. Mais finalement, ce n'était pas vraiment ce que Dieu lui avait demandé. Vous savez, en toute chose, on voit ce que Dieu nous demande de faire. Et quand Dieu nous demande vraiment de nous tenir dans certaines positions, c'est vrai que le fait de jeûner, par exemple, ça va forcément nous fatiguer, nous amoindrir, etc. Mais quand c'est le jeûne selon Dieu, on en ressort vainqueur. Fatigué, épuisé, avec vraiment l'envie de manger un Big Mac, mais vainqueur. Avec à la fin des visions qui sont plus trop divines parce qu'on a l'impression de voir des escalopes voler, et des poulets se balader dans tous les sens. Non, ça c'est les premiers jours. Après, vous voyez, c'est très facile. C'est vrai en plus. Les premiers jours, c'est difficile. Mais après, au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a une puissance spirituelle à ce niveau-là. Mais si on le fait volontairement, simplement humainement, parce qu'on se dit, bah tiens, il faut jeûner. effectivement, on risque de tomber ensuite malade et dans des situations qui ne sont pas vraiment selon Dieu. Mais quand c'est Dieu qui nous pousse à vivre véritablement des choses, on en ressort vraiment vainqueur, enrichi, et avec notre maturité spirituelle qui a grandi. Et puis enfin, quand nous nous engageons aussi dans une activité spirituelle, les uns et les autres, eh bien nous nous engageons pour le Seigneur, c'est vrai, mais nous devons réfléchir dans cette consécration, dans cet engagement, dans ce que nous faisons pour Dieu. D'abord réfléchir si nous sommes bien à notre place, ça c'est important, parce que quand on n'est pas à notre place, eh bien c'est que certainement on a pris la place d'un autre. Et si on a pris la place d'un autre que Dieu voulait, eh bien c'est certainement que l'autre devait certainement mieux faire que nous. Donc ça, il nous faut y réfléchir. Il ne faut pas prendre ça non plus pour dire, bah finalement, moi, tiens, je vais rien faire parce que je ne sais pas finalement ce que Dieu veut que je fasse. Je crois qu'il y a deux choses à considérer. Il y a ce que Dieu nous appelle à vivre et à faire. C'est un premier point. Et puis, il y a également ce qu'il faut faire. C'est comme quand vous êtes dans une famille, dans un couple, et que vous allez dire à votre femme, moi, le Seigneur, il m'a pas appelé à faire la vaisselle. Je ne pense pas qu'elle soit bien contente. Oui, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup de vaisselle ce soir, mais on pourrait parler de le repassage. Par exemple, il y a notre place, puis il y a ce qu'il faut faire. Et dans l'Église, c'est la même chose. Dans l'Église, il y a ce que Dieu nous demande de faire, et puis il y a le travail qui est émanant tout simplement de l'Église. Et là, qu'on soit appelé ou pas, il faut le faire. Le ménage, qu'on soit appelé ou pas, il faut le faire. C'est comme ça. L'entretien, l'extérieur, etc., etc. Il y a des choses qui sont à faire. Donc il faut considérer ces deux choses. Mais également encore, en toute équilibre, et je termine avec ce verset de Colossiens qui nous dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, eh bien faites tout au nom du Seigneur Jésus. Donc d'où l'importance de ne pas faire des choses en notre nom, mais en son nom à lui. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Gloire à Dieu. La parole puisse s'accomplir dans notre cœur, dans notre vie, et que vraiment nous puissions eh bien, la mettre tout simplement en pratique et la vivre pleinement. J'ai demandé à Xavier de terminer par la prière, s'il te plaît.